Et salut à tous, bienvenue dans votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous pour une grande nouveauté. Aujourd'hui, le 26, on est combien ? On est le 26 ou le 25 ? Emmanuel, on est le 26.
26.
On est le 26. Alors aujourd'hui, mardi 26 décembre, nous lançons le premier podcast en duo avec Emmanuel que je vais vous présenter dans une seconde. Je suis Alexandre Pluvinage, le créateur et le hosteur de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel. Emmanuel, c'est un copain, mais c'est aussi, et moi je le définirais un peu comme le couteau suisse de la cybersécurité. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un mec qui est un IT au départ, donc même s'il connaît un petit peu moins aujourd'hui qu'avant, il connaît la partie technique. C'est quelqu'un qui connaît très bien la sécurité informatique, il s'est développé là-dedans. Mais il connaît aussi l'autre côté, celui qui nous intéresse, nous, dans ce podcast, à savoir le côté humain, parce qu'Emmanuel, il est aussi psychologue, il a aussi été chercheur à l'université, enfin, il connaît un petit peu tout, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, c'est super cool. Emmanuel, salut, bienvenue sur le podcast pour la première fois, comment vas-tu ?
Salut Alexandre, écoute, merci de m'inviter, et en plein milieu des vacances, là tout va bien. Hein.
Oui, c'est ça, je t'ai un peu dérangé avec ta famille, ça va, mais ta femme n'est pas fâchée.
Non. Pas encore.
Elle a mis un peu de temps à répondre. Bon, on verra. Donc aujourd'hui, on va parler de mots de passe. On va parler de ce sésame qui sécurise nos comptes en ligne, qui a des qualités, qui a aussi, à mon avis, des défauts. On va en parler. Puis on va peut-être commencer par un peu l'histoire du mot de passe. Parce que le mot de passe, on a l'impression que c'est récent, c'est avec Internet. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le mot de passe, c'est très vieux. Déjà, dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient des mots de passe. Alors, pas pour s'identifier dans leur compte en ligne, ils n'en avaient pas, mais pour se reconnaître dans les bagarres, dans les batailles, par exemple. Bah, parfois, on fait une bataille avec le clan voisin, on ne se connaît pas tous exactement, on n'est pas tous capables de se reconnaître. On avait un mot de passe, une phrase de passe, un mot spécial qui permettait de savoir qu'on n'était pas en train de trucider son voisin et qu'on était bien en train d'attaquer le méchant qui était en face. Et puis, ça s'est resté. Je veux dire que même plus tard, au Moyen-Âge, les Templiers aussi avaient leur code. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les combattants anglais qui venaient en Europe cachés pendant la guerre, pour être sûrs de savoir qu'ils étaient en train de parler avec un compatriote à eux, avaient des phrases populaires ou des mots populaires tirés de chansons. Je dis populaires parce que ça venait souvent de chansons populaires ou de poèmes qui étaient très connus, pour être sûr que c'était bien anglais et qu'ils n'allaient pas tuer un autre espion qui était là avec eux sans qu'ils le sachent. Mais le mot de passe, celui qu'on connaît, hein, le mot de passe virtuel, le mot de passe numérique, qu'on utilise aujourd'hui et qui nous pose beaucoup de problèmes, hein, on va en parler, il a été inventé en 1961. Alors, il a été inventé au niveau du MIT, aux États-Unis. Pourquoi là d'abord ? Parce que je pense que tu me corrigeras peut-être Emmanuel si je me trompe, mais je pense que ça a été la première université à avoir un ordinateur, un gros ordinateur. Et à l'époque, les ordinateurs, c'était une pièce complète. Hein. C'était pas juste comme aujourd'hui, on a des tout petits laptops, c'était très très cool, mais à l'époque, c'était un hangar. Et ces ordinateurs, il n'y en avait qu'un. Alors oui, comment est-ce que je sais que moi je peux ? Ouais, mais il a déjà passé 2 heures dessus et moi j'ai du temps, j'ai du travail aussi. Eh bien, ils avaient des mots de passe. Ça leur permettait deux choses. D'abord, de savoir qui rentrait dessus, hein, une sécurité, mais aussi de savoir combien de temps ils y passaient pour éviter que je pique le temps d'un autre qui lui aussi a le droit de mener ses recherches. Hein, c'était pour des chercheurs sur le gros ordinateur de l'université. Ça s'est développé. Les autres universités ont eu leur laptop, ça y est, c'est parti, leurs ordinateurs, leurs méga-ordinateurs, et puis ils ont aussi implémenté le mot de passe. Et dès le départ, et c'est ça qui est super drôle, parce que finalement, dès le départ, il y a des chercheurs qui commençaient à deviner ou à chercher, parce qu'évidemment, alors qu'est-ce qu'ils faisaient d'abord ? La première erreur, c'est ton mot de passe. Ok, je le notais quelque part, je laissais parfois traîner le papier, mais il y en a un autre qui arrivait derrière, qui voyait mon mot de passe, et qui me piquait mon temps d'ordinateur. Qui me piquait mon accès à mon ordinateur, parce qu'à l'époque, ils ne se volaient pas des données. Ce n'était pas le but d'aller vraiment voir ce que les autres faisaient dans leur recherche, il suffisait de leur demander, ils en parlaient entre eux, mais c'était quand même de garantir le temps d'accès à la machine, et ils se pirataient déjà l'accès à la machine. Alors évidemment, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on n'a pas un compte en ligne, on en a 10, 20, on a notre email, on a nos médias sociaux, on a les applications qu'on utilise pour acheter en ligne, on en a plein en fait. Et elles sont toutes sécurisées par un mot de passe. La sécurité de base, le niveau zéro de la sécurité dans toutes les applications aujourd'hui, c'est le mot de passe, encore. Alors qu'on sait depuis le début que ça ne marche pas, puisque quand ils l'ont inventé, ils étaient déjà en train de se le voler. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé, enfin, on va en parler, il y a peut-être des choses qui arrivent, mais on n'a pas encore trouvé vraiment un système de tuer le mot de passe partout. Et donc aujourd'hui, le mot de passe, c'est une sécurité faible. Et c'est une sécurité faible, pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Bah, c'est parce que ça ne colle pas avec nous. Ça ne colle pas avec nous en tant qu'humain, ça ne colle pas avec notre cerveau, notre manière de penser, en fait, de retenir. Le mot de passe, on a peur de l'oublier, donc qu'est-ce qu'on fait ? On le note ou, pour être sûr de ne pas le noter parce qu'on sait que ce n'est pas bien, on va choisir quelque chose de faible, à savoir son prénom, sa date de naissance, ou son prénom et sa date de naissance, le nom de son chien. Enfin, c'est assez édifiant de voir que depuis 10 ans, le mot de passe, enfin, il y a 10 ans, le mot de passe le plus connu, le plus utilisé, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Bah, l'année dernière, le mot de passe le plus utilisé, il y a eu une évolution, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clairement, ça montre bien qu'encore aujourd'hui, la plupart des gens ne se rendent pas bien compte des risques liés à l'utilisation d'un mot de passe faible. Parce que c'est ça le problème. En soi, que votre mot de passe ce soit 1, 2, 3, 4, 5, on s'en fiche s'il n'y avait pas de risque. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y en a et on sait qu'ils augmentent. On sait qu'il y en a de plus en plus. On le voit, le nombre de gens qui se font pirater un compte Facebook. Et puis, ce n'est pas juste se faire pirater son compte Facebook. Après, c'est grâce à ça, le fraudeur ou le cybercriminel va pouvoir accéder à mes données, à mes contacts et parler avec eux. Il y a une histoire totalement édifiante d'une Américaine qui s'est faite pirater son compte Facebook. Et puis de là, le criminel, il est allé vendre des faux trucs, des trucs qui n'existaient pas, sur Marketplace, via son compte. Évidemment, ce n'était jamais livré. Donc les gens ont commencé à râler. Et il a chatté avec eux, il leur a répondu, oui, j'ai un problème, il leur a fait patienter, puis à un moment, ça ne pouvait plus attendre. Donc les gens sont vraiment énervés, il dit, c'est pas grave, venez me voir à la maison. Il a donné l'adresse de la propriétaire du compte. Et cette pauvre femme s'est retrouvée un jour avec des gens qui tapaient à sa porte, qui étaient extrêmement agressifs, parce qu'eux, ils avaient tout l'historique de la discussion qui n'allait pas dans le bon sens. Elle n'avait rien fait, elle ne savait pas ce qui se passait, elle s'est retrouvée avec des gens violents devant chez elle. Protéger ses médias sociaux, protéger ses comptes en ligne, c'est aussi protéger sa vraie vie. C'est protéger son argent, c'est protéger son intégrité. On vient de le voir là. Je ne pense pas qu'elle se soit faite agresser, en tout cas pas physiquement. Mais enfin, ça devait être quand même vachement lourd à supporter. Donc, le mot de passe, c'est loin d'être un détail. Et on va le voir, je vais déjà vous donner un petit hint sur la suite. On va le voir, le mot de passe, c'est aussi très simple à gérer correctement. Il suffit juste de savoir un peu comment faire et de prendre quelques minutes pour le faire. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec Emmanuel. Et on va commencer parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, ce n'est pas juste le mot de passe, c'est pourquoi est-ce que ce mot de passe, on va le créer simple. Et dans les études qui ont été faites, psychologiques, alors toi qui es psychologue, tu vas pouvoir aller un peu plus loin que moi, mais juste le détail, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, et plein, sur le mot de passe, parce que c'est vraiment le problème de sécurité générique. Et ils se sont rendus compte que tout le monde, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de connaissance. Je veux dire que ce qui était super intéressant, c'est que tout le monde sait qu'un mot de passe, c'est important, qu'il doit être long, différent et qu'il ne faut pas le noter, donc que c'est quelque chose de sérieux. Et malgré ça, tout le monde préfère choisir un mot de passe simple pour une seule et unique raison, pas l'oublier. Qu'est-ce que tu penses de ces études, toi, Emmanuel ? Parce que c'est quand même... En fait, on le sait, mais on continue à proposer des mots de passe et on continue à utiliser des mots de passe.
Oui, et en même temps, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Hein. C'est-à-dire que le mot de passe, ça reste le moyen d'identifier quelqu'un qui est bon marché aussi. C'est-à-dire que de la biométrie, il faut avoir soit une caméra, un lecteur d'empreintes digitales ou quelque chose. Donc, il faut un matériel bien spécifique. Un mot de passe, il faut ce que tout le monde a, un clavier et un écran. Donc, c'est déjà le moyen le plus abordable.
Et un post-it pour le noter. Aussi...
Oui, voilà. ou un ami à qui le dire. Mais en soi, le truc, c'est qu'il y a aussi une habitude. C'est quelque chose que les gens connaissent et maîtrisent. On sait aussi que quand il y a une nouvelle technologie auquel on doit faire adhérer les gens, enfin à laquelle on doit faire adhérer les gens, ça prend du temps. Il y a des gens qui vont y passer facilement, il y en a d'autres qui vont être un peu plus difficiles à convaincre. Et donc le mot de passe, ben, comme tu dis, c'est là depuis tellement longtemps que ça reste la solution par défaut pour la plupart. Parce qu'on sait que on peut l'appliquer à tout le monde, que ça ne va pas poser trop de problèmes, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a plus de risques de se faire hacker parce que, bah, comme on va en parler, notre mot de passe, on peut le trouver quasiment partout si on l'utilise toujours le même. Et si on veut en utiliser des différents, bah, ça devient difficile à gérer et on a une tendance à les garder un peu trop simples. Et donc, on peut facilement les deviner.
Et trop longtemps.
Oui, voilà.
Et trop longtemps, parce que et tu donc, me disais, effectivement, on se les fait voler. Alors, on se les fait voler soi-même. Hein, on va en parler du phishing, mais on se les fait déjà, parce que c'est ça que la plupart des gens ne savent pas, les plateformes se les font voler. Je veux dire que les piratages de mots de passe de LinkedIn, de Facebook, enfin, il y en a un paquet. Évidemment, de plein d'autres petites entreprises beaucoup plus petites et donc dont on parle peut-être moins. Évidemment, si j'utilise le même mot de passe partout et qu'il est perdu une fois par une plateforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, alors mon mot de passe, il est connu pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce truc-là, mais les cybercriminels, ils ont des robots. Ils ont des robots qui vont aller, bah, en fait, comme les robots de Google, enfin, on appelle crawler les pages pour voir, hein, pour les référencer, bah, ils font la même chose avec les mots de passe. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un mot de passe et un identifiant. C'est souvent un email, parce que c'est une habitude qui a été prise partout. Et à partir de là, je vais aller sur Internet. Enfin, mon robot va aller sur Internet. Et puis, il va aller tester partout. Facebook, X, Instagram, Amazon, Microsoft Office 365. Enfin, toutes les plateformes possibles et imaginables. La liste certainement se rallonge. Je ne la connais pas, la liste. Je ne suis pas de côté des cybercriminels, mais on se doute bien qu'elle se rallonge. Et puis, à partir de là, ils savent exactement où est-ce que ça rentre. Donc, s'ils ont un mot de passe, ils sont capables de savoir à un instant T à quel endroit ils ouvrent encore. Et typiquement, ça leur permet de vendre des mots de passe de qualité à des gens qui, justement, eux, bon bah, vont se spécialiser dans le piratage de comptes informatiques.
Mais on l'a vu, hein, il y a ce sketch de McIntyre, qui est un comique anglais, qui explique que les mots de passe ont évolué, qu'on a juste rajouté un point d'exclamation. Il y a une réalité là derrière, c'est que l'être humain est un être d'habitude. Et donc, une fois qu'on a pris une habitude avec un mot de passe, on ne va pas la changer complètement, on va la faire évoluer en général. Donc, nos mots de passe sont souvent basés sur les mots de passe qu'on avait déjà avant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on nous a dit « Ah, 6 caractères, c'est pas assez », puis 8, puis 12, puis 14, puis il faut un caractère majuscule, une minuscule, un caractère spécial, un chiffre, voilà, on devient. Mais en général, en effet, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à remplacer le « e » par un « 3 », le « 1 » par un point d'exclamation, enfin, on fait tous à peu près la même chose, et donc, on sait que théoriquement, plus on met de possibilités de caractères différents, plus normalement ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire les différentes possibilités qu'il y a dans un mot de passe et qui va le rendre plus difficile, devrait augmenter. Mais en réalité, quand on parle d'un être humain, cette augmentation n'est pas énorme parce que on fait toujours la même chose. Et donc, oui, on a augmenté le nombre de possibilités théoriques pour les mots de passe. On peut utiliser plein de caractères différents, mais dans la réalité, on utilise toujours les mêmes. Hein, on commence par une majuscule, on continue ensuite par des minuscules, on finit souvent par un point d'exclamation ou un truc comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on va retrouver assez régulièrement. Et donc, la facilité de deviner ces mots de passe, elle n'a pas tellement changé. Un petit peu, mais pas énormément.
Non, et on va
surtout
en parler.
Surtout qu'ils ont des robots.
La longueur et la sécurité des mots de passe, on va en parler parce que je voudrais qu'on en reparle tout à l'heure avec les gestionnaires de mots de passe, et un qui s'est fait pirater l'an dernier, c'était dans la presse. Mais en revenant sur le vol de mots de passe, donc on a couvert la partie, les plateformes se les font voler, ils les testent et ensuite ils savent où ils rentrent, mais ils vont aussi nous voler nos mots de passe. Il y a une étude de 2020 qui a été faite sur les emails de phishing qui étaient envoyés, et ils se sont rendus compte que le mail de phishing, il y a les trois plus importants. Un, c'est justement le vol de mots de passe, le vol de comptes en ligne, les Office, etc. Le deuxième, c'était tout ce qui était compte bancaire. Et puis le troisième, c'était des emails avec des malwares, ou en tout cas avec des liens qui amenaient vers un malware. Ça représentait, si je ne me trompe pas, plus de 80% des emails de phishing qui sont envoyés. Alors, c'était en 2020, mais c'est intéressant d'ailleurs parce que 2020, c'était aussi le Covid et c'est là qu'on a vu beaucoup de vols de comptes professionnels. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, tout le monde s'est retrouvé à la maison et les entreprises ont dû investir pour celles qui n'avaient pas et celles qui l'avaient, on continue avec, dans des comptes de travail en ligne comme Office 365, la suite Office, etc. Mais alors, je devais me loguer de la maison. Je devais avoir un système d'identification et donc un mot de passe qui permettait de m'identifier sur la plateforme pour pouvoir travailler. Et on a vu beaucoup d'emails de phishing de ça. Disons, par exemple, oui, c'est un email Outlook. Tu ne vas plus pouvoir accéder à ton Outlook dans une heure parce que ton mot de passe a expiré. Clique ici. Alors, en plus, il y en a des rigolos parce que moi, j'en ai encore un exemple, parce que je les garde, où il n'y a pas marqué « changer ton mot de passe ». Il y a marqué « cliquer ici pour garder ton mot de passe ». C'est absolument ridicule. On ne va pas garder son mot de passe. S'il y a un problème, on va le changer et pas le garder. Mais c'est tellement rassurant que je puisse garder mon mot de passe que je clique dessus. Et la partie la plus intéressante là-dedans, quelque chose qu'on a vu vraiment, nous, on a découvert en tout cas au niveau pendant la période du Covid, c'est que tous ces emails d'identification arrivaient sur une page d'identification. Donc, Microsoft 365 avec un champ hein, login, password, et puis identifiez-vous. Et quand on a fait les tests, on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on tapait son mot de passe la première fois, on avait un message d'erreur qui disait ah erreur, réessayez. Alors quand on y réfléchit, on se dit ben attends, ça colle pas. Là, dans le coup, moi, je sais que c'est du phishing. Je sais que c'est une page qui n'est pas une page Microsoft, donc ils n'ont pas mon mot de passe. Donc, ils ne peuvent pas vérifier que ce mot de passe ne fonctionne pas. Ils ne l'ont pas. Et le mot de passe, je dois le rentrer une deuxième fois. Qu'est-ce qu'ils ont créé là? Ils ont créé ce qu'on appelle la qualité des données parce que, eh bien, si je dois le rentrer une deuxième fois, psychologiquement, je sais que je vais faire attention parce que j'ai souvent 2, 3, parfois 5 maximum essais avant que mon compte soit bloqué. Et donc, on fait tout ça, que ce soit sur un clavier ou sur un téléphone, on va rentrer son mot de passe d'abord sans faire très attention, rapidement, et puis si on se plante, on va regarder où est-ce qu'on pose nos doigts sur les touches et on va taper son mot de passe pour limiter le nombre d'erreurs. Et pour les fraudeurs, c'était génial ça. Pour les criminels, c'était fantastique parce qu'ils pouvaient, le comparer au premier, parce qu'ils capturent les deux, donc vérifier que c'était le même, et donc celui-là, on est sûr qu'il est bon, et puis s'il y a un doute, je vais plutôt prendre le deuxième parce que normalement, la personne l'a tapé en faisant attention. Et donc, la qualité est meilleure. Ils ont créé un système pour nous voler nos mots de passe et ensuite, ils l'ont doublé avec un système qui permet d'être sûr que je lui donne le bon et que je ne crée pas, je ne leur envoie pas un mot de passe qui serait erroné. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de respect pour ces gens parce que c'est des criminels, mais au niveau créatif, au niveau qualité du boulot, ils sont quand même assez impressionnants. Tout ce qu'ils investissent pour avoir la qualité dans les données, pour pouvoir faire le plus de dégâts finalement avec ce qu'ils font, moi, ça m'étonne quand même. Enfin, c'est impressionnant.
Ils sont pragmatiques, en tout cas.
Ouais. Et ils évoluent vite. Ils évoluent plus vite que nous, d'ailleurs. Et puis, alors, c'est toi qui le disais, effectivement, hein, il y a la qualité des données, des mots de passe, les mots de passe qui sont censés être de plus en plus longs, mais que on ne rend pas plus sûrs nous-mêmes. Et alors, on nous dit de faire des phrases de passe. Alors, je ne sais pas. C'est un conseil qu'on donne beaucoup. Je ne sais pas si les gens le prennent. Est-ce que la phrase de passe vit réellement? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait? Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui créent une phrase de passe?
Je n'ai pas non plus. Je pense que d'abord, il y a... Oui, je suis aussi très branché phrase de passe. Je pense que c'est plus facile quand on doit retenir des mots de passe longs. Mais il y a quand même relativement peu de systèmes qui demandent des mots de passe très, très longs. Je crois que souvent, le minimum maintenant est mis sur 10-12, hein, donc c'est déjà pas mal. Mmh. Mais ce n'est pas vraiment une phrase en soi. On peut encore trouver des mots, surtout si on rajoute des petits points et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la difficulté avec le mot de passe, et on en discutait un peu off, c'est de le retenir. C'est pas déjà, on crée un qui est un peu complexe, ce n'est pas toujours évident, mais on a un peu de créativité parfois là-dedans. Mais c'est de se dire, OK, maintenant, il faut que je le retienne. Avant, il y avait une grande tendance à vouloir changer de mot de passe tous les mois. Donc, c'était quand même un effort de devoir retenir quelque chose de nouveau chaque mois. C'est vrai que même les recommandations à ce niveau-là ont changé ces dernières années. On se rend compte qu'on préfère avoir un mot de passe un peu plus long, plus résistant, mais qu'on garde plus longtemps. En tout cas, tant qu'on est assez sûr qu'on n'a pas, que quelqu'un ne nous l'a pas piqué ou qu'il n'a pas été compromis. Justement, pour devoir éviter ce problème de... Quand il y a un mot de passe qui est long, on sait que ça prend plus de temps à taper, donc il y a plus de chances qu'on fasse une erreur dedans, donc c'est plus stressant. Si on le tape régulièrement, ça devient une habitude, on ne doit plus y penser. Mais pour créer une habitude, il faut du temps. Et si tous les mois ou tous les deux mois, on doit changer, en gros, on ne profite de cette habitude que pendant très peu de temps, pendant une semaine ou deux. Mmh. Et donc, on est stressé tout le temps. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, bien sûr, pour éviter d'être stressé, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le post-it ou... prendre un mot de passe qui va être janvier, février, mars avec le nom de l'année, enfin des trucs comme ça, ou rajouter un numéro derrière à chaque fois, ce qui n'est pas non plus une autre chose. Alors, il y a des systèmes qui commencent bien sûr à détecter ça et à empêcher ça, mais en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est stresser l'utilisateur. Et stresser l'utilisateur, ce n'est jamais une bonne chose non plus, en fait, parce que le but d'un utilisateur, la plupart du temps, c'est de travailler. Et on travaille moins bien quand on est stressé, enfin, pour la plupart des gens. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver là-dedans. Et les phrases de passe, normalement, devraient permettre, en effet, de rendre les mots de passe longs et complexes sans qu'ils soient trop difficiles à mémoriser. Maintenant,
c'est une question pour toi.
Comme beaucoup de choses, il faut le temps.
Oui, ça, alors là, évidemment. Mais petite question. À ton avis, si j'ai un mot de passe unique, donc pour chaque compte différent, et ce que je dis est super important parce que c'est hein, le postulat de départ a toute la valeur qu'il doit avoir. Si j'ai un mot de passe, ça y est, unique, différent pour tous mes comptes, long, une phrase de passe de 15, 20, même 20 caractères, on va dire, est-ce que je dois quand même le changer de temps en temps? À ton avis? Et attention, hein, y a le côté spécialiste de la sécurité qui veut dire oui, il faut le faire, mais le psychologue, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il dit?
Alors, déjà, hein, si quelqu'un arrive à avoir un mot de passe différent pour chaque site, pour chaque utilisation, soit il a vraiment peu d'activité, soit il a une mémoire de dingue. Parce que, moi, je ne sais pas, je le sais parce que j'ai un gestionnaire de mot de passe. Je pense que j'ai plus de 180 mots de passe qui sont enregistrés dedans, donc je n'arriverai pas à le retenir de moi-même. C'est pas... Ou bien il faut avoir une petite logique et on peut y aller. Le problème, c'est que s'il y a une logique et qu'on a des hackers qui arrivent justement à retrouver deux ou trois de nos mots de passe, ils peuvent deviner la logique, ce n'est pas trop compliqué, et donc ils peuvent commencer très facilement à deviner les mots de passe sur les autres systèmes. Donc voilà, il y a aussi des problèmes avec ça. Donc, oui, si vraiment on arrive à avoir 20 mots de passe, par exemple, moi, ce que je recommande souvent, c'est si on veut vraiment le faire sans gestionnaire de mots de passe, c'est d'avoir des mots de passe par catégorie. Des mots de passe pour mon email, des mots de passe pour mes systèmes mon système bancaire, pour mes réseaux sociaux, et puis un mot de passe relativement facile pour les trucs où je ne vais pas souvent, où il n'y a pas d'argent, genre mes cartes de fidélité sur un magasin ou des trucs
important.
Comme ça. Voilà.
Mmh.
Voilà, moins important. Ça fait déjà 5 ou 6 mots de passe à retenir, ce qui n'est pas rien. Il faut savoir, il faut connaître le mot de passe. Il faut savoir à quel cadre il s'applique. Enfin, donc, ça prend aussi du temps. Et en effet, je ne le changerai pas tous les mois. Hein. Ça, on va revenir à... c'est stressant, on va faire des erreurs, et donc on va se revenir sur des mots de passe trop simples. Maintenant, c'est toujours la même chose. Quand est-ce qu'on devrait le changer, alors? Alors, c'est vrai que sur sur certains sites, on ne vous demande pas de le changer. Vous pouvez le garder 10 ans, ça sera bon.
S'il est sûr,
souvent, ce qu'ils font,
il n'a pas été perdu.
S'il n'a pas été
perdu. Est-ce que je dois changer la clé de ma maison si je n'ai pas perdu la clé de ma maison? Ben non.
Ben non. Non, et l'avantage maintenant, c'est que vous regardez sur Chrome, sur Edge, sur toute une série de systèmes, vous pouvez voir si votre mot de passe a été retrouvé dans une fuite de données.
Exact.
Et donc,
exact.
On peut utiliser ça pour savoir, OK, là, celui-là, il est compromis, ben je le change. Je pense que c'est vraiment le plus simple à faire. Avant, il fallait aller sur des sites comme Have I Been Pwned, qui n'était pas toujours facile à trouver pour certains. Maintenant, c'est devenu, je pense que quasiment la plupart des fabricants de logiciels et d'hardware, hein, Apple, Microsoft, etc., ont intégré ça dans leur système à eux. Donc, ça devient relativement facile à utiliser. On a toujours le même problème, les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Moi, j'avoue que j'ai encore, je pense, un ou deux mots de passe qui ont été compromis, que je n'ai pas changé. Parce que parfois, avec une faille, on en a une quarantaine qui sont vite bloquées.
Ouais, ouais, ouais. Parce que tu en as parlé, en fait, tu as parlé de la solution, hein, déjà, c'est le gestionnaire de mots de passe. Parce que finalement, c'est ça la bonne manière pour protéger ces mots de passe. Tu en connais encore quelques-uns, tu l'as dit. Moi, j'en ai encore quatre phrases de passe que je connais par cœur, qui sont notées nulle part et qui sont des phrases de passe que j'ai décidé de retenir, qui sont assez faciles pour moi et que, comme je les utilise régulièrement, tout va bien. Tout le reste, j'ai plus de 200 mots de passe, donc je te bats, mais je pense qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels je n'avais plus du tout. Et donc, il faudrait que j'aille faire un petit coup de ménage, ça ne ferait pas de mal. J'ai plus de 200 mots de passe, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas parce que c'est mon gestionnaire de mots de passe qui fait le boulot pour moi. Alors, ils sont géniaux, les gestionnaires de mots de passe aujourd'hui, puisque, un, ils vont le créer, ils vont me le proposer, ils vont me le retenir, ils vont me le redonner quand j'en ai besoin. Du style, ah tiens, tu te connectes sur ce site, j'ai un mot de passe pour toi, est-ce que tu veux l'utiliser? Oui, et puis il y aura, on va en parler aussi des biométriques, il y aura une deuxième sécurité pour permettre que n'importe qui n'utilise pas ce gestionnaire de mots de passe à ma place. Et puis, ça aussi, tu l'as mentionné, et c'est récent et c'est vraiment bien. Ces gestionnaires de mots de passe, ils vont aussi aller voir sur Internet pour tester si mes mots de passe ont été compromis et je reçois une alerte. Quand je reçois un mot de passe ou quand j'utilise un mot de passe qui a été compromis, il va me dire, attention, je peux te le donner, mais Il y a plus que toi, il y a pas que toi qui le connais. Donc, moi, je te conseille de le changer tout de suite. Et ça, on peut le faire aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment le couteau suisse. Alors, toi, tu étais mon couteau suisse du podcast de la cybersécurité. Le gestionnaire des mots de passe, c'est le couteau suisse de la gestion des mots de passe. Il fait tout ce qu'il faut faire pour avoir des bons mots de passe longs et complexes et différents. Alors, je ne vais pas te demander lequel tu utilises, toi. C'est peut-être un truc que tu dois pas. Moi, je peux le dire, je n'ai pas de souci, je peux parler pour moi. Mais c'est une question que l'on me pose souvent quand j'en parle. C'est, ouais, mais bon, il y a deux choses. Il y a deux choses qui inquiètent les gens aujourd'hui. C'est un, ouais, mais si je n'ai pas mon téléphone, je ne sais pas y accéder ou comment je fais. Ils sont dans le cloud la plupart du temps. Mais deux, c'est, est-ce qu'ils sont bien sécurisés? Alors, on peut parler d'abord du cloud. Effectivement, bah oui, la plupart aujourd'hui sont dans le cloud. C'est bien. Alors oui, le cloud, il y en a plein qui disent le cloud, c'est pas sûr. Si, si, le cloud, c'est sûr, surtout si on prend des grands noms. Bah, ils savent ce qu'ils font, ils sécurisent ça mieux que nous. Et puis, de toute façon, je ne dis pas que le risque n'existe pas. Le risque existe toujours un tout petit peu. Mais entre avoir un mot de passe faible que tout le monde connaît, hein, parce qu'il a été perdu, et mettre plein de mots de passe longs, sécurisés, vraiment sûrs dans le cloud, avec peut-être une petite chance qu'un jour il y ait un problème, bah, le choix est vite fait. C'est beaucoup plus sécurisé d'aller utiliser un gestionnaire de mots de passe dans le cloud que de ne pas utiliser de gestionnaire de mots de passe et puis avoir des mots de passe qui sont faibles, répétés, etc. Ça, on ne va peut-être pas trop en discuter. C'est quelque chose qui est clair aujourd'hui, c'est connu. Mais est-ce que ces mots de passe, ces gestionnaires de mots de passe sont sûrs aujourd'hui? Parce que, bah, on l'a entendu hein, l'année dernière, LastPass, qui était un des plus grands dans le commerce, bah, ils se sont fait pirater. En plus, deux fois, ce n'était peut-être pas très malin. Ils se sont fait voler du code au mois d'août, si je ne me trompe pas. Et puis, fin d'année, ils ont dit que les hacks pirates étaient partis avec les coffres-forts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux mots de passe. Ils sont partis avec les coffres-forts, hein, les fichiers encryptés, très forts encryptés, de chaque utilisateur ou de beaucoup de leurs utilisateurs. Ils n'avaient pas la clé pour l'ouvrir. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Mais justement, quand ils sont partis avec le coffre-fort, c'est un mot de passe qui permet de déverrouiller le coffre-fort dans lequel se trouvaient tous les mots de passe. Donc, si on avait mis un mot de passe trop facile, parce que bien sûr qu'ils vont essayer de les casser, enfin, ils ont réussi à avoir les coffres-forts, ils vont essayer de les ouvrir. Là, déjà,
et puis, ils sont local, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de trois essais, ils ont autant d'essais qu'ils veulent maintenant.
Voilà, c'est là, ils peuvent s'amuser.
Sur leur machine.
Mais quand ça arrive, ce genre de choses, c'est à nous de changer tous nos mots de passe et on peut... Ouais. Générer un nouveau coffre-fort qui va régénérer le mot de passe. En fait, je pense qu'il y a de plus en plus de systèmes qui permettent, même quand ils voient qu'un mot de passe est compromis, ils vous envoient automatiquement sur la page sur laquelle on peut changer le mot de passe, ils régénèrent le truc. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça prend de moins en moins de temps. C'est plus facile, de plus en plus facile à gérer. Donc, c'est vrai que tout le monde peut se faire hacker. Il y a toujours une probabilité, dans pas mal de cas, elle est vraiment... très petite, que ça arrive. Et en fait, en sécurité, on ne cherche jamais la sécurité totale. On sait que ça n'existe pas. On cherche juste à réduire les probabilités à un niveau qui est acceptable. Je veux dire, la plupart d'entre nous, on n'est pas en train de construire une maison qui va résister à une chute de comète. Pourtant, ça pourrait arriver.
La probabilité existe, elle
est très, très, très faible et donc on ne s'en soucie pas. Par contre, on a tous mis normalement une serrure sur notre porte parce que la probabilité que quelqu'un essaie de rentrer, voilà, elle est quand même un peu plus importante. La probabilité que quelqu'un arrive à hacker des systèmes comme, tu parlais d'Office 365, il y a Apple, enfin les grands GAFA, le GAFAM même maintenant, elle existe bien sûr, mais ils le savent et ils ont des budgets de dingue pour se protéger et pour nous protéger aussi. Donc quand on utilise des gros acteurs qui ont du budget, qui font les choses correctement, il y en a pas mal d'ailleurs qui font pas mal de recherches en sécurité, qui ont mis en place des systèmes de développement et de gouvernance pour augmenter la sécurité de leur système, à un point que y a peu de sociétés qui arrivent à ce niveau de sécurité-là. Et donc, mettre nos œufs dans leur panier, c'est probablement plus sûr que de le mettre dans le nôtre. Parce que eux, leur panier, il a été vraiment bien pensé. Et nous, quand on le fait...
Il y a trois niveaux. Donc, il y a le niveau de l'utilisateur qui est le plus bas. Hein, je fais tout moi-même, je ne note pas, je retiens tout. Allez, si tu as une super mémoire, ça marche aussi. Il y a le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est déjà très bien d'une marque n'importe laquelle. Et je ferai la différence avec le fait d'aller utiliser les gestionnaires de mots de passe d'Apple, Google, Microsoft, hein, les grands noms, qui eux offrent quand même un niveau de sécurité encore supérieur parce qu'ils ont des moyens pour garantir la sécurité de leurs utilisateurs que des plus petites boîtes n'ont pas en fait. Donc, c'est ça que... Bah, personnellement, c'est ce que je pense aussi. Je peux le dire, moi, mon gestionnaire de mot de passe, c'est celui de mon téléphone, de mon iPhone. J'utilise celui d'Apple. J'utilise le trousseau d'Apple. Je trouve ça très, très pratique. Et il est synchronisé partout et ça ne me pose aucun problème. Et, petit aparté, parce que parfois, j'ai besoin d'un mot de passe que je ne connais pas, évidemment, hein, parce que la plupart de mes mots de passe, moi, je ne les connais pas. Et je ne suis pas sur ma machine, mais je n'ai pas mon téléphone. Je sais m'identifier sur iCloud et de là, je peux récupérer mon mot de passe via Internet. Donc, c'est aussi possible de faire ça. Ça m'arrive une fois par an, max, parce qu'en général, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Mais quand même, si ça devait arriver, je sais quand même y accéder. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup plus confiance. Moi, je nomme en général 4 grands acteurs. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais oui, les 4 que je cite en général, c'est effectivement Google, Microsoft, Apple et Amazon. Amazon, on pense que c'est juste, enfin, pour beaucoup de gens, c'est juste un magasin en ligne, c'en est un. Mais c'est surtout un des plus grands providers de serveurs informatiques au monde, avec AWS, qui est une des plus grosses boîtes de serveurs informatiques au monde, qu'utilise d'ailleurs tout le monde. Toutes les autres les utilisent. Ils dépensent des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions en sécurité aussi, comme les autres. Donc, on peut aussi leur faire confiance à ce niveau-là.
Oui, tout à fait.
Et oui, vas-y.
J'ai perdu le.
Ah, c'est pas grave. Alors, on va parler de biométrique. On va parler de biométrique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parce que tu parlais effectivement tout à l'heure de mot de passe. C'est quelque chose qui n'est pas génial, mais on peut le doubler avec les biométriques. Vas-y, je t'écoute.
La biométrie, ça a un avantage pour l'utilisateur en tout cas. On ne risque pas de le perdre.
C'est quoi la biométrie d'abord ? Désolé.
La biométrie, c'est utiliser... Je vais faire juste un petit pas en arrière. Il y a 3 façons d'identifier les personnes. Ce que l'on sait, ce que l'on a ou ce que l'on est. Ce que l'on sait, en général, c'est justement le mot de passe. Ce que l'on a, ça peut être une clé, ça peut être un digipass ou un truc comme ça, en tout cas dans l'informatique. Et ce que l'on est, c'est la biométrie, c'est-à-dire notre empreinte digitale souvent, les caractéristiques de notre visage. Il y a des choses qui se font un peu dans tous les sens. Hein. On fait de la biométrie sur la paume des mains, sur la façon de taper aussi. Il y a notre façon de marcher. Mais enfin bon, les trucs les plus courants de nos jours, ça reste l'empreinte digitale et la reconnaissance du visage.
La reconnaissance faciale. Les trucs
faciales, voilà. Plus évolué, vous avez aussi la reconnaissance de l'iris. Mais bon, ça, c'était très... Mission Impossible et autres films, mais on le retrouve de moins en moins quand même. Ça s'est fait à un moment donné, hein. Ça s'est fait beaucoup, mais puis on est quand même passé plus à d'autres choses. Donc l'avantage en effet, c'est qu'à moins d'un accident, il y a peu de chances qu'on perde ses doigts ou son visage, et qu'en plus, on a cet avantage, c'est que c'est rapide. C'est-à-dire que souvent, c'est 1 ou 2 secondes, et donc en termes d'usabilité, enfin de convivialité pour l'utilisateur, c'est probablement ce qui est le plus convivial dans les trois possibilités. La seule petite difficulté, c'est que il faut en général un capteur spécifique, mais la plupart des téléphones maintenant ont un capteur d'empreinte digitale ou une caméra pour pouvoir reconnaître le visage. Au début,
les ordinateurs aussi aujourd'hui utilisent ça.
Voilà, ça se retrouve un peu dans tous les systèmes de nos jours. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de systèmes qui l'utilisent. C'est vrai qu'au début, vous aviez les systèmes de reconnaissance faciale où si vous mettiez une photo de quelqu'un, parce que c'est ça le problème de la biométrie, c'est qu'on la retrouve partout. C'est-à-dire que si je vous vois, je vois votre visage, je peux en prendre une photo et peut-être la montrer après à un ordinateur. Mais les ordinateurs ont évolué, enfin, les systèmes ont évolué justement pour ne plus se laisser berner par ce genre de...
Parce qu'on l'a vu dès le départ, quand ils ont lancé ça, il y a eu plein de vidéos de mecs qui disaient « Ouais, j'ai pu berner le capteur de biométrie faciale, j'ai pu créer une empreinte digitale de quelqu'un. » Alors, en laboratoire, hein, soyons clairs, et puis c'était il y a longtemps, parce qu'on les voit beaucoup moins aujourd'hui, ces gens-là, mais c'était au tout début de la technologie. Et puis, il y a un autre truc, je te laisserai finir après, mais il y a un autre truc, moi, qui m'est arrivé, et c'est vrai que j'avais pas vraiment la réponse parce que je sais pas comment faire, mais je parle pas de jumeaux, je parle de, parce que les jumeaux avec la reconnaissance faciale, effectivement c'est problématique. L'empreinte digitale, je ne sais même plus d'ailleurs, est-ce qu'ils ont les mêmes empreintes digitales les jumeaux? Je ne sais pas.
Non, pas.
Donc ça peut fonctionner. Donc ils se concentrent.
C'est la seule chose différente.
Ouais. Mais j'ai déjà vu, et même sur des iPhones, quelqu'un me l'a raconté, mais je l'ai vu quelqu'un dans mon entourage aussi, un enfant qui a débloqué le téléphone de sa maman. Et là, typiquement, il y a encore des limites à ça. Bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus sécurisé que tout le reste, mais il y a encore des limites aujourd'hui.
Mais là aussi, le diable est toujours dans le détail. C'est-à-dire que dans la reconnaissance des empreintes digitales, on ne reconnaît pas toute la forme des empreintes digitales, on prend certains points, ce qu'ils appellent les minuties. Les systèmes les plus basiques prennent 5 points. Et en fait, 5 points, il y a énormément de probabilités que quelqu'un d'autre ait les 5 mêmes points qui sont. Je crois que les systèmes avancés maintenant, la plupart sont sur 9 points, où là, c'est un peu comme les mots de passe. Si vous avez un mot de passe de 5 caractères ou un mot de passe
long,
9,
c'est ça.
En plus, c'est long, etc. Donc, c'était une possibilité avant. Moi, je sais qu'en reconnaissance de visage, il y a quelques années de ça, j'avais essayé sur un des premiers téléphones où il y avait une reconnaissance de visage. Ma fille avait débloqué mon téléphone. Il y a probablement un peu de ressemblance, mais malgré tout, ça n'aurait pas dû se passer. Et de nos jours, ça ne se passe plus. On a ça aussi avec la reconnaissance vocale. Il y a de plus en plus d'assistants vocaux qui sont censés normalement reconnaître la voix des gens. Il y a moyen de les avoir aussi, mais ça évolue. Et ça a toujours été une tendance en sécurité, c'est-à-dire qu'on met en place des techniques pour sécuriser les choses, les hackers trouvent des failles, on évolue, on améliore la technique,
le jeu du chat et
la c'est
souris.
Une course permanente. Voilà. Donc, mais l'avantage aussi, c'est que, comme tu le disais, la plupart de ces technologies sont développées par des entreprises qui ont beaucoup de moyens maintenant et qui ont une vraie tendance à améliorer la sécurité, ou en tout cas à penser la sécurité dès le départ. Et donc, on évolue très, très vite à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir un bon compromis entre la facilité d'utilisation et la sécurité. Mais souvent, de toute façon, c'est combiné avec un mot de passe. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le combiner peut-être avec un mot de passe peut-être plus simple ou qu'on change moins souvent. Parce que ça va être plus compliqué d'avoir les deux en même temps.
Oui, et d'ailleurs, juste, je vais revenir là-dessus avant de sauter au sujet que tu viens d'introduire, qui est en fait le fait d'avoir un second facteur d'identification. Mais c'est aussi quelque chose, une discussion que j'ai eue très récemment. Je donnais une formation et quelqu'un me disait « Oui, mais j'hésite, moi, les biométriques, parce que j'ai pas envie qu'Apple ou Google ou Microsoft aient la reconnaissance de mon visage ou aient mon empreinte digitale. » Ils ne l'ont pas. En fait, il y a des gens qui l'ont. C'est l'État. Votre passeport, en Belgique, par exemple, votre carte d'identité, vous avez dû mettre vos empreintes digitales. Si vous êtes allé une fois aux États-Unis dans votre vie, ils ont vos empreintes digitales aussi. Il y en a qui l'ont. Mais les grosses boîtes ne l'ont pas parce que, en fait, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale est encodée sur une puce spécifique sur l'appareil qui va simplement, après, quand on va essayer de vous reconnaître, dire « je connais ou je sais reconnaître ce visage ou cette empreinte digitale » et donc c'est bon, tu peux ouvrir cette porte-là. Mais c'est stocké en local, donc ça n'est pas exporté. Ce n'est pas les Apple, Google et Microsoft qui ont vos données, c'est l'État et d'autres institutions publiques. Donc ce n'est pas là où vous devriez avoir peur. Juste pour finir ce truc-là, parce que je sais que c'est quelque chose que certaines personnes, sur lesquelles certaines personnes se posent une question et parfois sont inquiètes. Mais donc voilà, tu parlais maintenant, tu as introduit le sujet de la seconde identification parce qu'on l'a vu, le mot de passe, il n'est pas prêt de mourir. Même s'il y a des initiatives du style passkey qui sont nées et qui se développent, il y a toujours un mot de passe caché derrière. La bonne façon de faire, c'est effectivement d'avoir un mot de passe sûr, mais d'avoir un second facteur, d'avoir une seconde manière de vous identifier. En fait, une seconde clé, mais une seconde clé qui est différente. Parce que tout à l'heure, Emmanuel disait, il y a trois manières de vous identifier, ce que vous savez, ce que vous avez, ce que vous êtes. Deux mots de passe différents, c'est un seul facteur. 15 mots de passe, c'est un seul facteur. 100 mots de passe, c'est un seul facteur, c'est le mot de passe. Pour avoir un second facteur, il doit être différent. Alors, ça peut être effectivement les biométriques, la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Ça peut être un SMS que je reçois sur mon téléphone. Ça peut être une application comme Microsoft Authenticator ou même Google Authenticator qui vont donner un code. Et pour ceux qui l'utilisent, ils le savent. C'est un code qui est temporaire. Donc, on voit, il y a une petite roue qui tourne et qui dit, voilà, il vous reste 15 secondes pour l'utiliser. Au bout de 15 secondes, il en génère un nouveau. Et il n'y a que celui-là qui sera valable. Il y a différents moyens d'utiliser la seconde identification. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce que c'est vrai que de plus en plus, les grosses boîtes et les Facebook et les Apple ont fait des campagnes, parfois même ont obligé certaines personnes à le faire, entre guillemets. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés au-dessus et qui ne l'ont pas fait.
Oui, et je pense que c'est dommage parce que il y a une vingtaine d'années, on faisait déjà du double authentification et ça coûtait très cher. Les systèmes fonctionnaient principalement avec des petits tokens, hein, ce qu'on appelait des Digipass ou des choses comme ça, qu'il fallait distribuer aux gens. Enfin, c'était compliqué. Maintenant, quasiment tout le monde utilise ce qu'on appelle les soft tokens, c'est-à-dire, comme tu venais de l'expliquer, un mot de passe qui change toutes les minutes sur ton téléphone. Et donc, vu que le smartphone, c'est le plus haut taux de pénétration en termes de technologie, en tout cas en Belgique. Je pense qu'on est à 94% de la population qui en a un. Donc, en gros, ça doit être juste les bébés qui n'en ont pas pour l'instant. Et certaines.
Heureusement, faut pas
Voilà.
commencer trop tôt.
Mais, non, heureusement. Mais, donc, c'est une fa technologie facile à déployer, très bon marché, et qui fait que même si maintenant je reçois un email de phishing, je mets mon mot de passe dedans, en ayant combiné ça avec. Un ET, enfin, un one-time password ou n'importe quelle autre technologie qui permet de faire du two-factor authentication, donc une authentification à deux facteurs, eh ben, je ne suis pas compromis parce que l'attaqueur n'a pas encore le deuxième facteur. Alors, il y a des techniques qui permettent de récupérer le deuxième facteur. Ils vont nous envoyer des SMS, ils vont refaire peut-être du phishing un peu après. Ils peuvent mettre en place, mais ça veut dire qu'ils doivent réussir deux fois. Réussir une fois, c'est déjà pas évident. Réussir deux fois, ben, ça l'est encore moins. Et donc, rien que ça déjà, on va diminuer fortement la probabilité qu'il y ait une faille. Et là aussi, s'il récupère notre mot de passe sur un autre site, à partir du moment où on a mis du tout effet, ils ont juste le mot de passe, ils ne savent pas aller plus loin. Et donc, en termes de sécurité, je parlais de ce compromis hein, entre la facilité et la sécurité. Bah, je pense qu'on est dans quelque chose qui reste relativement simple d'utilisation, bon marché. Et qui est très sécurisé. Je pense que c'est pour ça aussi hein, que les dernières campagnes du Centre belge de la cybersécurité et de la plupart des banques tournent en effet sur l'utilisation du tout effet. Et je pense que maintenant, il n'y a quasiment plus de sites sérieux qui n'offrent pas au moins cette possibilité-là.
En effet,
Mais par contre, ils ne le forcent pas encore.
Non, et il faudrait qu'un jour ils vont devoir le faire. En fait, le jour où ils vont devenir responsables de la sécurité de leurs utilisateurs, enfin des données de leurs utilisateurs end-to-end, parce qu'on dira l'utilisateur est trop faible, parce qu'un jour ça pourrait arriver. La justice pourrait dire, écoutez, l'utilisateur, désolé, il est trop faible, il ne comprend pas, il n'y arrive pas, vous devrez le faire, et là ce sera forcé. Très honnêtement, moi je suis assez pour, hein. Je suis assez pour le fait que les sociétés obligent les gens à avoir la sécurité. Alors attention, d'abord, qu'ils aient tous la même ou qu'il y en ait juste deux. Parce que si chacun se met à lancer sa propre sécurité, ça va devenir l'enfer, les gens vont plus comprendre. Mais si on se mettait tous à utiliser le même système de sécurité et qu'il soit obligatoire, on rendrait la vie des cybercriminels beaucoup plus compliquée. Et finalement, allez, je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on l'a vu. Je veux dire que la ceinture de sécurité a été installée dans les voitures parce que c'était important pour la sécurité des utilisateurs, mais les gens s'en fichaient. Alors, on l'a rendu obligatoire et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent même pas prendre leur voiture sans leur ceinture. Je pense qu'à un moment, il faudra rendre la sécurité obligatoire, honnêtement. Mais ça sera peut-être un autre sujet de fond à avoir.
Mais je pense que un des trucs qui change très fort, parce que j'utilise souvent aussi l'exemple de la voiture. Moi, quand j'ai eu ma première voiture, hein, c'était dans les années 90, donc ça remonte quand même un peu. Il y avait un truc très à la mode à l'époque comme alarme, c'est qu'ils appelaient ça les VV2. Et alors, c'était, tu devais klaxonner une fois, mettre le clignotant à gauche et puis allumer la lumière à l'intérieur pour déverrouiller.
Ouais,
Ça
je me
semblait
souviens
très
de
fun,
ça.
mais personne n'aimait ce truc-là parce qu'on se
Non.
trompait tout le temps. Et puis
Tu
après,
klaxonnais à chaque
il
fois que tu
fallait
partais, tu
avoir
te
une
fâchais avec
clé,
tes
voilà,
voisins.
c'était compliqué. Maintenant, en fait, la plupart des voitures sont sécurisées comment? Ben, c'est vous avez votre clé dans votre poche, vous approchez, ça déverrouille tout et voilà. Et plus personne ne se plaint de la sécurité des voitures. Pourquoi? Parce
Non.
qu'ils l'ont rendue très conviviale. Et je pense que c'est là aussi où on va maintenant, c'est que c'était un facteur qui était souvent ignoré et ça a changé, je pense, ces dernières décennies, c'est que de plus en plus, les créateurs de systèmes informatiques pensent en termes de convivialité. Ils disent, OK, il faut pas uniquement que je fasse un système qui est sécurisé, il faut que je fasse un système qui est utilisable par tout le monde, parce que il y a 30 ans, c'était des gens très spécialisés qui avaient des ordinateurs. Maintenant, tout le monde a un ordinateur. D'ailleurs, de nos jours, sans ordinateur, on a un vrai problème, c'est que on ne sait plus faire toute une partie de l'administratif, nos impôts, etc. Même s'il y a encore moyens de faire, ça devient de plus en plus compliqué, même accéder à sa banque. Hein.
Yep.
On sait que ça devient compliqué. Donc, on doit vraiment inclure tout le monde dedans. Et donc, il y a quand même de plus en plus de recherches qui ont été faites sur la convivialité et l'utilisabilité des systèmes informatiques et aussi des systèmes de sécurité comme ça. Et donc, je pense que, justement, des systèmes comme ceux qui utilisent des téléphones, vu qu'on sait que tout le monde en a ou quasiment tout le monde en a et que c'est très facile, enfin que les gens ont l'habitude de l'utiliser, on va arriver à quelque chose de... Je pense, par exemple, maintenant, hein, on a un système en Belgique qui est génial, qui est XMI, qui a un niveau de sécurisation très élevé. J'ai vu dans la nouvelle version, ils avaient intégré un lecteur de QR code.
Ouais.
Pourquoi? Parce que pour éviter que les gens ne se trompent et ne fassent encore des erreurs, c'est encore un pas en avant vers l'utilisabilité du système. Et ça, c'est génial. Et je pense que cette tendance-là va aider.
Attention, la sécurité, l'ISMI, elle est là. Et je pense qu'on ne va pas la contredire. D'abord parce que l'ISMI a été créé par l'État, les banques, les telcos. Donc, on a eu tous les spécialistes de ces grosses boîtes pour garantir un niveau de sécurité. En revanche, elle reste encore dépendante de l'utilisateur parce que ISMI va, de manière très sécurisée, me dire ce que je fais. Tu es en train de faire un transfert, tu es en train de t'identifier à tel endroit. Mais si tu ne lis pas ce que l'écran te montre avant de dire oui ou non... Et je sais qu'il y a des fraudeurs qui aujourd'hui utilisent ça, font croire au téléphone, par exemple, à une personne que bah, ils font une action A et puis le téléphone montre une action B et les gens disent « Ok, non, ITSMI est très sécurisé, ça veut dire qu'ITSMI ne va pas vous mentir et si ITSMI vous dit « Vous êtes en train de faire ça », c'est exactement ce que vous faites. Ça veut dire que c'est la personne qui est peut-être au téléphone qui vous dit autre chose qui est en train de vous mentir. Et ça encore, je pense qu'il y a encore du travail aujourd'hui pour que tout le monde le comprenne parce que, et c'est intéressant, il y a un niveau très élevé de sécurité dans ITSMI. En fait, ITSMI n'a jamais été piraté, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, les gens pensent que c'est tellement sécurisé qu'ils ne doivent pas faire attention. Alors que si, je dois, moi, regarder ce que je valide, parce que ça, ITSMI ne peut pas le faire à ma place. Je dois regarder si c'est OK pour moi de dire oui ou de dire non.
Mais c'est une possibilité que tu as dans ITSMI que tu n'avais pas avec ton DigiPass, par exemple.
Ah, ça, c'est clair. Donc, c'est clair, absolument.
Donc, et je pense que c'est déjà un niveau. Et en effet, il faut que l'utilisateur le comprenne.
Et puis il y a Pasqui qui arrive. Alors Pasqui qui arrive, on en parlait déjà il y a un an de Pasqui. Je pense qu'on a fait un épisode du podcast sur le sujet il y a déjà un an. Ça fait peut-être même un peu plus d'un an. Pasqui qui était annoncé comme étant la mort du mot de passe. Alors ça le sera quand tout le monde aura implémenté Pasqui, ce qui sera à mon avis jamais le cas parce que les toutes petites entreprises ne vont peut-être pas le faire. Mais en tout cas, tous les grands l'ont déjà fait. Alors les Google, les Microsoft, les Apple l'ont fait. Pasqui, c'est une façon de s'identifier sans avoir plus de mot de passe. Là où moi j'ai, et peut-être tu le sais, j'ai pas l'information, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Est-ce que si j'implémente Pasqui, ils détruisent automatiquement mon mot de passe? Parce que clairement, tous ces comptes sur lesquels je vais le configurer, il y avait déjà un mot de passe avant. Tu sais comment ça se passe?
Non, je connais pas les détails.
Faudrait que je regarde d'ailleurs, parce que s'il reste un mot de passe derrière, bah, c'est un peu dommage, parce que c'est bien, mais il y a plus de mot de passe derrière. Mais Pasqui fonctionne. Comment? Eh bien, en fait, il va utiliser votre téléphone portable pour créer deux clés, une clé publique et une clé privée. Et la clé publique, elle est donnée, et même si elle est connue, elle ne sert à rien de toute façon. Et c'est votre téléphone qui va servir grâce à la connexion Bluetooth avec votre ordinateur. Pourquoi connexion Bluetooth? Parce que vous devez être à côté. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait loin de vous, qui serait en train de vous manipuler, ou un hacker qui serait en Chine ou en Russie, je ne sais où, ou même dans la maison d'à côté, il peut pas s'identifier à votre place parce qu'il doit avoir, un, l'appareil, deux, l'appareil doit être à côté de l'ordinateur que vous utilisez. Donc, typiquement, c'est vachement bien. Là où moi, j'ai quand même un peu une critique, c'est qu'ils ne l'ont pas tous appelé pareil. C'était pas très clair. Au départ, ils l'ont annoncé comme Pasqui, puis on a eu un autre nom, et puis on ne sait plus. Oh, mais alors, est-ce que je l'ai implémenté ou pas? Est-ce que c'était ça que j'ai utilisé ou pas? Et donc, là encore, d'un point de vue communication, ils auraient pu faire un effort d'uniformisation et de clarté pour que tout le monde sache ce que c'est et ce que j'utilise. Typiquement, il y a peu de gens, même ceux qui l'ont implémenté, qui ont compris comment ça fonctionnait. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas ce que toi, t'en penses, mais implémenter un truc pareil qui est quand même une grande révolution, enfin, parce qu'ils ont travaillé dessus depuis plus de 10 ans, et se planter sur la com, c'est dommage.
Oui, et on en parlait, hein, c'était la simplification des systèmes est quand même un des facteurs qui va permettre la généralisation du système. C'est-à-dire que quand quelque chose est compliqué, on a une niche, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont l'utiliser parce qu'ils sont assez à l'aise avec toutes les nouvelles technologies, mais on ne va parler que de 20% de la population. Or, pour que ça devienne vraiment sécurisé, il faut qu'on arrive à un plus grand nombre de gens et donc que ça devienne de plus en plus facile à utiliser ou en tout cas de plus en plus courant, que les gens le comprennent. Tant qu'il y aura des systèmes tout à fait différents, si l'utilisation est la même, c'est vrai que si et que on arrive à avoir une uniformisation au moins sur le nom, en tout cas que là tout le monde utilise, comprenne que cette technologie, c'est cela exactement, voilà la même nomenclature, on aura fait aussi des progrès. Maintenant, c'est toujours le truc, comme tu dis, ça a mis un certain temps à développer, tout le monde n'a peut-être pas développé ou implémenté, enfin mis en œuvre de la même façon, il va falloir un peu de temps, je pense, pour que ça... Mais on a toujours eu ça, hein, finalement. On en revient au VHS et au Betamax il y a 30 ans ou 40 ans. Et puis, il y en a qui n'y a pas survécu.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et puis, voilà, ça va.
Entre-temps, ils sont morts tous les deux. Mais,
Ils ont... Bon, il y en a qui en ont encore, mais bon, personne ne veut les regarder. Mais pourquoi ? Parce que la qualité est devenue meilleure et c'est vrai que les choses ont évolué. Et finalement, on a la même chose aussi à tous les niveaux. Hein. C'est qu'il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent et il y a une compétition qui est saine, justement, parce que ça fait évoluer. Et puis, il y a à un moment donné une sélection presque naturelle de la technologie. Écoute, on verra, parce qu'il y aura probablement encore des choses derrière ça. Hein. Là, pourquoi est-ce que Passkey a pu évoluer ? C'est parce que, justement, Bluetooth est devenu un standard de fait dans la plupart des systèmes. Il y en a dans les téléphones, il y en a dans les ordinateurs aussi, parce qu'on a nos casques qui sont en Bluetooth, etc. On ne sait pas quelle est la technologie qui va arriver dans 5 à 10 ans, et probablement plus 5 que 10, parce que ça évolue de plus en plus vite. C'est vrai que on a aussi ces petites clés qui permettent de stocker nos mots de passe et des clés dessus, qu'on mettait normalement dans le port USB, qui maintenant fonctionne aussi soit en Bluetooth, soit en NFC.
NFC.
Qui est une, voilà, qui se tiennent aussi de... C'est possible parce que toute cette technologie a évolué. Donc, tout ça va évoluer rapidement. C'est peut-être ça un des problèmes maintenant, c'est que pour beaucoup de personnes, ça devient difficile de suivre toutes ces avancées. Il faut presque se professionnaliser. Et c'est vrai que...
Oui, écoutez, le Frondeur, le cœur et vous, le meilleur podcast sur le sujet.
Avec toutes les nouveautés, d'ailleurs.
On va commencer à... on essaye de couvrir l'actualité et simplement, on va, puisqu'on est, déjà à 52 minutes, c'est le plus long podcast qu'on a jamais fait, mais je pense qu'avec la discussion, ça rend quand même le sujet super intéressant. On va finir, parce qu'on a parlé, donc on va faire un petit résumé, on a parlé des mots de passe qui doivent être longs, différents, phrases de passe, mais différents partout. Le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, vous en avez un dans votre téléphone, qu'il soit Android ou qu'il soit Apple. Et l'identification à deux facteurs, un second facteur, que ce soit les biométriques, les SMS, les applications spécialisées là-dedans. Bon, très bien, j'ai compris, je vous ai écouté les gars, Emmanuel était clair, Alexandre était un bros, ok, super. Maintenant, je fais quoi ? Je change lesquels ? Alors, j'ai une question à te poser pour finir. Si demain, si dans 5 minutes, là, toi, tu n'avais pas justement déjà mis tout ça en place, tu recommanderais à quelqu'un qui est dans ce cas-là de changer les mots de passe sur quel compte en premier ? Et quels comptes sont peut-être moins importants, même si on le sait, il faudrait le faire partout, mais bon, soyons pas non plus plus catholiques que le pape. Lesquels sont importants ?
Ouais, je pense que le premier, alors j'hésiterais toujours entre le bancaire et l'email, mais je pense que l'email reste le premier. Pourquoi ? Parce qu'on peut souvent faire les resets de mots de passe à travers l'email aussi. Et donc, si quelqu'un a accès à notre email, il peut faire des resets de mots de passe. Donc, on perd beaucoup. Donc, peut-être pas tous les emails, mais s'il y en a un que vous utilisez systématiquement pour justement créer vos comptes sur des entreprises où vous avez des données importantes ou sur vos comptes bancaires, c'est celui-là que vous devez sécuriser en premier. Clairement, s'il y en a un où vous devez mettre du double facteur, enfin de l'authentification double facteur, c'est celui-là aussi. Ensuite, oui, le bancaire, tous les trucs où il y a de l'argent. Et puis à un moment donné aussi, je crois en troisième, ça serait les médias sociaux si vous êtes un gros utilisateur, parce que si c'est pas pour vous protéger vous, c'est pour protéger vos amis, parce que c'est celui-là qu'on va très vite utiliser pour essayer de convaincre vos potes que vous avez un problème, vous êtes en vacances et j'ai besoin d'argent, ou simplement pour vendre et pour envoyer des liens qui sont malicieux. Après, voilà, pour les autres, les sites sur lesquels vous allez une fois par an, ça peut prendre du temps. Toujours la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce que le hacker va pouvoir faire avec cet accès ? S'il n'y a pas d'argent dessus, s'il n'y a pas de données sensibles, s'il n'y a pas de choses qu'il peut utiliser pour peut-être avancer dans une attaque, moins d'urgence, quoi. Mais je pense que l'email maintenant
j'ai les trois mêmes.
Encore central. Ouais.
J'ai les trois mêmes, donc à peu près dans le même ordre, effectivement, l'email. Je pense que, et d'ailleurs, j'ai fait un petit épisode de cours sur le podcast sur le fait que l'email, c'est le centre névralgique de votre vie en ligne. Il y a tout. Il y a tous vos contrats avec votre banque, avec vos fournisseurs d'accès à Internet, électricité, etc. Moi, j'ai vu le cas d'un gars qui s'est fait pirater son Gmail et ils sont allés regarder dans ses emails. Ils ont vu qu'il avait un crédit dans une certaine banque. Eh bien, ils lui ont envoyé un mail. Ils ont fait une copie de l'email. Ils ont envoyé un nouveau mail se faisant passer pour la banque. La personne n'a pas regardé d'où venait le mail et l'email disait voilà, ça fait 3 mois qu'on n'a pas reçu le paiement pour votre crédit. On va vendre votre maison puisqu'on a un droit hypothécaire sur la maison. Ou alors, vous devez payer tout de suite tel montant sur tel compte, ce qu'il a fait, évidemment. Et donc, paf. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, avec l'email, un problème de sécurité. Et c'est typiquement, quand je disais tout à l'heure, et je pense qu'on va faire un épisode sur « Devrait-on ?» parce que je pense qu'il va être intéressant, peut-être on va trouver d'autres acteurs pour discuter avec nous, mais « Devrait-on rendre la sécurité obligatoire dans certains domaines ?» S'il y a un endroit où ça doit être obligatoire, c'est l'email, parce que c'est le centre de tout aujourd'hui, votre email. Vous parlez avec votre email, de votre email avec quasiment toutes vos relations. Et comme disait Emmanuel aussi, c'est là où tous les réinitialisations de mots de passe vont arriver. On va sur Facebook, on fait réinitialiser le mot de passe, ça débarque dans votre email. Donc, c'est le plus important. Ensuite, l'argent, oui. Alors, les banques n'ont plus pour la plupart de mots de passe aujourd'hui, voire je vois qu'il n'y en a plus aucune en Belgique. En revanche, oui, tous les comptes en ligne qui ont accès à votre carte de crédit, parce que là aussi, c'est de l'argent. Donc, si vous achetez sur Amazon et qu'ils ont votre carte de crédit ou un système de paiement, iCloud, parce que oui, ça paye tous les mois votre abonnement à iCloud, ou etc. Ou Google aussi, parce que ça vous permet d'acheter vos applications en ligne sans devoir à chaque fois rentrer votre carte de crédit. Tous ceux qui ont vos moyens de paiement, là aussi, mot de passe long sur différents et second facteur. Et puis les médias sociaux, parce que on le voit aussi, il y a de plus en plus de cas de gens qui se font pirater leurs médias sociaux. On n'en a pas parlé, on en parlera dans un prochain épisode, mais les fraudeurs sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de mecs qui se forment et qui se lancent là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est facile, ça permet de faire quand même pas mal d'argent en se prenant pas trop la tête. C'est totalement illégal, mais quand même, ça les intéresse. Mais ils sont énormément sur le marché. Donc, ça pousse automatiquement à une spécialisation. Et il y en a qui se spécialisent dans les médias sociaux et à faire des trucs avec vos médias sociaux en votre nom. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire « Bah ouais, mais non, ça ne va pas. » Si. Il y a des cohortes de gars qui sont spécialisés là-dedans, il y en a qui sont spécialisés dans les emails, il y en a qui sont spécialisés dans les comptes bancaires, et ces mecs-là, ils vont faire ça toute la journée. Donc, si on ne sécurise pas ces comptes-là, on leur laisse la porte ouverte, il vaut mieux pas le faire. Donc, voilà, effectivement, moi aussi, c'est ces trois-là. Si vous deviez, après avoir écouté cet épisode, changer des mots de passe sur un certain nombre de comptes, commencez par cela, et puis après, avec le temps, votre gestionnaire de mots de passe vous dira lesquels de vos mots de passe ne sont pas très sécurisés, et c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Voilà. Emmanuel, je te remercie. C'était super intéressant. On est à 1 heure
quasiment. Alexandre.
C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais c'était super intéressant. Donc, on se reverra très, très certainement bientôt dans un prochain épisode. Est-ce qu'il y a encore un mot que tu veux rajouter avant de finir ou on va juste terminer ?
On va juste terminer.
Alors, merci. Effectivement, merci à toi d'être là. Merci à vous tous d'écouter de suivre cet épisode. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser un like. Évidemment, vous le savez, hein, comment les algorithmes sur les médias sociaux fonctionnent. C'est le nombre de vues, c'est le nombre de likes, c'est la rapidité avec laquelle les gens vont la regarder aussi qui font que il va être poussé. Et donc, plus de gens vont nous écouter. Alors, pourquoi est-ce que vous voudriez que plus de gens nous écoutent ? Parce que finalement, vous, ça ne vous intéresse peut-être pas. Si finalement, c'est aussi notre façon de se battre ensemble contre les fraudeurs et les cybercriminels. S'il y a plus de gens qui se protègent, les mecs, ils font moins de thunes derrière, ils font moins d'argent et c'est mieux pour nous. Ça protège finalement la population contre les criminels. Donc, c'est aussi une façon de protéger les autres contre les criminels. C'est gratuit. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bonnes fêtes puisqu'on est juste avant, on est juste entre Noël et Nouvel An. Et à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.